Chers amis, chers frères et sœurs, notre Seigneur est toujours le même. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En introduction de notre méditation d'aujourd'hui, voici un beau témoignage qui nous arrive depuis le début du XVIIIe siècle, il y a donc plus de 300 ans maintenant, et qui nous montre combien le Saint-Esprit est puissant pour agir, pour manifester ses dons en tout temps et toutes circonstances. Depuis des années, ils supportaient des souffrances inouïes. Ils étaient sans cesse harcelés par les dragons du roi, qui commettaient atrocité sur atrocité, enlevant les enfants, tuant, ruinant, saccageant tout sur leur passage. L'un de leurs pires ennemis était le sadique abbé du Sheila, qui prenait plaisir à torturer les protestants qu'il capturait. Excédés, ces humbles montagnards avaient pris les armes pour défendre les leurs. La révolte des Camisards avait commencé. Leur jeune chef s'appelait Cavalier. Par leur courage et leur foi, ils mirent en échec les troupes nombreuses du roi Louis XIV qui avait décidé de les exterminer. Ils remportèrent de nombreuses victoires qui stupéfièrent les plus grands chefs militaires. Un jour, après la bataille de Gaverne, les Camisards s'en allèrent au château de Rouvière. Alors qu'il était avec son cousin et plusieurs des responsables de la troupe, le chef Cavalier dit tout haut « Je me sens tout contristé ». Un Judas m'a baisé aujourd'hui. Cependant, on prépara le dîner. Environ 20 personnes se trouvèrent à table. Entre autres, il y avait un certain X, protestant de profession, qui avait toute la confiance de M. Cavalier et l'estime des autres. Il fréquentait toutes les assemblées et aidait même à les convoquer. Il recevait des secours d'argent qui lui étaient communiqués pour les Camisards, et même il avait souffert la prison pour cela. C'était un homme de 45 ans. Alors qu'ils étaient tous à table, X se trouvait à la droite du chef Cavalier, tandis que le cousin de ce dernier était à sa gauche. Soudain, poussé par l'esprit, le cousin de Cavalier se mit à prononcer ces paroles. « Je te dis, mon enfant, qu'un de ceux qui sont assis à cette table et qui a trempé le pain dans le même plat avec mon serviteur a dessein de l'empoisonner. » Peu après, une femme qui était dans la même pièce auprès du feu dit en ses propres termes « Il y a un Judas qui a baisé mon serviteur et qui est venu pour l'empoisonner. » Dès que le chef Cavalier eut entendu ces avertissements, il s'abstint de manger et ordonna que les portes soient gardées. Le frère Ravanel, lui aussi, soudain saisi par l'esprit, ajouta des précisions. « Je t'assure, mon enfant, lui dit l'esprit, qu'il y a présentement un traître assis à cette table qui a reçu une somme d'argent pour empoisonner mon serviteur et même toute la troupe, s'il lui était possible. Je te dis qu'il a promis à l'ennemi d'empoisonner l'eau de la citerne et le seau pour tâcher de détruire le troupeau s'il ne peut pas faire périr le berger. » Aussitôt qu'il eut entendu ces paroles, Cavalier défendit qu'on puise de l'eau et fit garder la citerne du château. Un autre frère, le frère Duplan, qui était dans une autre pièce, dévoila lui aussi par le Saint-Esprit les intentions du traître. Et il prononça ces paroles. Il a vendu mon serviteur pour une somme de 500 écus d'or. Mais il sera reconnu et convaincu de son crime. Il a dessein présentement de jeter le poison qu'il a caché sur lui ou de le mettre dans les habits de quelqu'un de la compagnie. Mais je permettrai, dit le Seigneur, qu'il soit reconnu et nommé par son nom. Cavalier fit venir le frère Duplan. Les Camisards avaient commencé à fouiller plusieurs personnes. Mais le frère Duplan vint droit à X et l'accusa avec véhémence, disant de la part du Seigneur, « Ne sais-tu pas, misérable, que je vois toutes choses, que je sonde les cœurs et les reins, et que les plus secrètes pensées me sont découvertes? N'appréhendes-tu pas mes jugements terribles? Oserais-tu nier le complot que tu as fait avec les ennemis de mon peuple? Confesse, malheureux, confesse ton crime !» X voulut s'excuser, mais Duplan déclara que le poison était dans la tabatière et dans la manche du juste au corps de celui qui était accusé, de sorte qu'il fut pleinement dévoilé. Le poison était dans du papier. Comme le Seigneur n'avait pas précisé ce qu'il fallait faire du traître, Cavalier le laissa libre de retourner chez lui à la tombée de la nuit. Toute la troupe se prépara pour la prière afin de rendre grâce pour la délivrance admirable que Dieu lui avait accordée. Aussitôt que X fut revenu chez lui, le commandant du lieu et les pères capucins qui s'étaient servis de lui lui redemandèrent l'argent. Alors X, afin de pouvoir garder quelques écus, promit de donner une liste de 60 personnes de la ville qui fréquentaient de près Cavalier afin qu'on les saisisse. Et quelque temps plus tard, 60 furent arrêtés par le maréchal de Montrevel, parmi lesquels le fameux cousin de Cavalier. Mais alors qu'ils étaient tous prisonniers dans un bateau, au milieu d'une terrible tempête, le Seigneur les fortifia par son esprit, les assurant qu'il les conduisait et qu'ils arriveraient au port. Et cela fut ainsi. Quant à X, il se retrouva en prison aussi, on ne sait comment, avec les camisards qu'il avait dénoncés. Il était en proie à une profonde mélancolie et finit par tomber malade. Il eut une nuit un songe horrible qu'il raconta au cousin de Cavalier, emprisonné d'ailleurs sur sa dénonciation, et qu'il pria de venir le voir. Il se voyait tout nu, et comme il cherchait à se cacher, il tombait dans un lieu abject, et y était plongé jusqu'à la bouche. Il criait, mais personne ne venait le secourir, et il se voyait mort dans ce vilain lieu. Peu de jours après, au plus mal, il fut transporté à l'hôpital, demeurant toujours dans une profonde tristesse et parlant sans cesse des troubles qu'il endurait nuit et jour. On lui donna une sorte de vin pour le faire vomir, et ce fut tellement terrible qu'il fut porté mort dans ses vomissures jusque dans sa fosse. Ainsi mourut celui qui avait voulu empoisonner tant d'hommes, qui en avait livré des dizaines aux bourreaux et qui n'avait pas voulu se repentir. Les camisards, faits prisonniers au cours de la guerre, furent généralement relâchés après 1704. Pour celui qui croit en lui et le suit fidèlement, Dieu est le Dieu des délivrances, le Dieu qui veille et préserve de tout mal, déjouant les plans du méchant. Ça donc, c'est le témoignage authentique du cousin de Cavalier, qui n'a pas nommé X, parce qu'il y a des personnes de son entourage qui auraient été en jeu. Donc, dans cet ouvrage publié en 1707, qui s'appelle « Le théâtre sacré des Cévennes » de Maximilien Misson. Et ce même Saint-Esprit, qui s'est manifesté comme connaissant toutes choses, qui a démontré qu'il sondait les reins et les cœurs jusqu'au plus profond, c'est ce même Saint-Esprit qui connaît ce qu'il y a au plus profond de nos pensées, de nos désirs, de nos âmes, à nous tous, en particulier qui sommes à l'écoute de sa parole. Remarquez que cet homme, malgré la grandeur de son péché, a eu l'occasion de se repentir au moins deux fois. Tout d'abord en étant relâché, alors que la peine pour sa trahison aurait certainement mérité la mort sans tarder, et ensuite au travers du songe solennel qu'il avertissait du sort éternel qu'il attendait s'il ne venait pas à Christ sans tarder, dans la repentance, l'humiliation et la foi. Considérez aussi que le Seigneur a eu miséricorde envers les siens. Il a permis des souffrances et des persécutions pour eux, mais au bout du compte, il leur a donné la délivrance. Enfin, ce témoignage nous confirme que chacun récoltera suivant ce qu'il a semé. Évidemment, comme dans l'agriculture, la récolte ne suit pas tout de suite les semailles. Il y a un temps, celui de la patience du paysan, qui correspond au temps d'attente et de persévérance dans la foi du fidèle. Mais il est certain que chacun récoltera la juste rétribution de ses choix et de ses comportements, ici-bas et dans l'éternité. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je vous propose maintenant d'ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 22. Et nous lirons ensemble jusqu'au verset 42, mais avant cela, nous voulons remettre la suite de ces moments dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, de la manière dont tu nous parles, dont tu nous enseignes, au travers de ce qui se produit autour de nous, de ce qui a pu se produire dans le passé, de manière à ce que nous puissions tirer, nous aussi, de notre trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. Et merci, Seigneur, parce que tu veux encore faire du bien à chacune et à chacun d'entre nous, par cette parole bénie et par l'action de ton esprit qui est toujours attentif, toujours pénétrant et toujours tout-puissant pour accomplir les desseins qui sont les tiens. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour toute bénédiction, tout d'avoir de salut et de grâce que tu accomplis pour chacun. Amen. Voilà, lisons donc, avons-nous dit, dans Jean chapitre 10 et au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement !» Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes !» Et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu !» Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Relisons cette grande question du verset 24. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. C'est une grande question qui devrait travailler et même tourmenter tout homme jusqu'à ce qu'il ait une réponse claire et précise à cette question après avoir soigneusement recherché ce qu'il en est. En effet, si Jésus est le Christ, alors ça veut dire toute une série de choses. Alors ça veut dire tout d'abord qu'il est le sauveur du monde, le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne peut être sauvé et béni que par lui. Cela veut dire aussi que tout homme qui ne le reçoit pas, qui ne le suit pas, qui ne lui obéit pas, est perdu, quel qu'il soit. Cela veut dire que Dieu a mis toute plénitude en lui, qu'il est la révélation de Dieu sur la terre, et qu'il est donc indispensable de se prosterner et de l'adorer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cela veut dire encore que sa parole est vérité, qu'elle est parfaite, qu'elle est infaillible en tout point, et que notre devoir est de la recevoir tout entière, sans la mettre en doute en aucune manière, ni en négliger un seul point. Et cela veut dire toujours qu'il est maintenant assis sur le trône suprême de l'univers, que le moment vient où toute domination, toute autorité, toute puissance vont lui être soumis, et que tout genou fléchira devant lui pour reconnaître qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Et cela veut dire que c'est lui qui jugera, au grand jour de l'éternité, les vivants et les morts ressuscités. Et que lorsqu'il dira aux uns « Venez, bénis de mon Père », ils seront effectivement bénis pour toujours. Quand il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître », il en sera réellement ainsi. C'est-à-dire que celui qui sera ainsi appelé sera pour toujours dans la joie et l'allégresse du ciel. Par contre, quand il dira « Allez-vous-en, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses, anges », il n'y aura pour ces derniers aucune échappatoire. Ils iront pour toujours dans les temps ardents de feu et de soufre où il y a des pleurs et des grincements de dents, ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort. Tout cela, mes amis, si Jésus est réellement le Christ. Par contre, si Jésus n'est pas le Christ, alors c'est qu'il est le plus grand menteur et trompeur que la terre ait porté, ou alors le plus grand mégalomane, le fou le plus délirant qui ait jamais existé, quand on voit les prétentions qui sont contenues dans son message. Alors, il est mort, mais pas ressuscité, et par conséquent, il n'est plus vivant et agissant aujourd'hui. Si Jésus n'est pas le Christ, alors il n'y a plus de guérison, de délivrance, de bénédiction dans le nom de Jésus. Alors notre foi est vaine. Notre persévérance est vaine et nous sommes encore dans nos péchés et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, on ferme sa Bible, on se salue pour ne plus se revoir, on s'en va pour ne plus se retrouver sur ce site, on va vivre à notre guise, n'importe comment, une vie absurde, décousue, sans se laisser freiner par rien, jusqu'au jour où on va finir au fond d'un trou, mangé par les petits vers, à moins qu'on ne soit désintégré par une bombe atomique ou liquidé par l'augmentation constante de la pollution avec ses conséquences qui nous envahit de plus en plus. Voilà. Voilà, vous voyez donc que cette question n'est pas sans importance. En fait, c'est même la plus importante question de toute notre vie et de toute notre éternité par ses conséquences et ses répercussions incalculables. Ces hommes ont donc eu raison de la poser. Il faut se la poser et il faut en trouver la réponse. Et c'est aussi dans ce but, bien sûr, que nous sommes là maintenant. Et à la fin de ces moments, certains auront clairement la réponse et d'autres ne l'auront pas. C'est comme dans le texte que nous avons lu. Certains ont refusé Jésus, d'autres sont venus à lui. Certains ont rejeté sa personne et son message, d'autres ont cru en lui. Certains ont rejeté ses œuvres et ses miracles, d'autres ont été au bénéfice de ses prodiges et de ses exaucements. Certains ont voulu demeurer sur la route aride et tourmentée de l'incrédulité. D'autres ont voulu marcher dans le bon chemin de la foi et de la puissance de Dieu, de la communion avec Dieu. Certains sont demeurés dans le doute, avec tout le triste cortège de misère qui accompagne un tel état. D'autres ont eu cette conviction ferme que Jésus est le Christ, ce qui produira pour eux un fruit paisible de justice. Et la suite de notre message ne sera donc pas compliquée, elle comprendra deux grands points. D'une part, nous parlons de ceux qui n'auront jamais cette conviction, cette assurance que Jésus est le Christ, avec les raisons de cela. Et puis ensuite, Dieu voulant, nous parlerons de ceux qui ont obtenu cette foi bénie et comment ils l'ont obtenue d'après notre texte. Donc, voyons en premier ceux qui n'auront jamais la conviction de l'assurance et l'assurance que Jésus est le Christ et les raisons de cela. En premier, nous voyons, au verset 24, qu'ils accusent Jésus de ne pas leur parler franchement, de tenir leur esprit en suspens. Vous savez, on accuse par Jésus. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une façon de faire. Nous voyons chez ces gens de l'agressivité à son égard, sans parler de leur orgueil par lequel ils prétendent le juger. Comment Dieu donnerait-il une bénédiction à des gens qui sont dans cet état d'esprit ? On raconte que lors d'une campagne aux élections municipales, le maire sortant se retrouvait dans un lieu où il se fit agresser verbalement par tout un groupe de personnes. Non seulement ces gens n'étaient pas d'accord avec lui, mais voilà des insultes, des menaces, des mots blessants qui fusent. Et parmi les plus vindicatifs, le maire reconnaît quelqu'un et lui lance « Monsieur Untel, vous ne me parliez pas ainsi quand vous êtes venu me demander du secours à la mairie et que vous l'avez obtenu. » L'autre, paraît-il, s'est senti repris quelque part, il a fermé sa bouche, il a été plutôt penaud. Et j'imagine que si le maire était réélu, cet homme aurait plus de mal à obtenir quelque chose qu'auparavant. Pourquoi ? Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les idées des uns ou des autres, mais il y a tout de même des façons de faire. Il y a un respect de l'autre qu'il faut garder, il y a des méthodes d'intimidation qu'il faut bannir, il ne faut pas être orgueilleux et intolérant. Or, que voyons-nous chez ces gens ? Ils se mettent tout autour de Jésus, comme pour l'intimider. Ils parlent sur un ton agressif, ils sont accusateurs. C'est comme si c'était la faute de Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître leur tort, mais ils mettent, déjà au départ, tout le tort sur lui. Que de gens qui sont ainsi aujourd'hui. Ils accusent le Seigneur de tout ce qui ne va pas, dans la société ou dans leur vie. Ils lèvent le poing contre lui. Ils disent « si Dieu existait, il devrait se passer ceci et cela, telle ou telle chose ne devrait pas être ». Ils veulent mettre Dieu au pied du mur, ils prétendent lui adresser un ultimatum, ils veulent le faire plier à leurs conditions. Comment Dieu, le grand Dieu et Seigneur de toute la terre, de tous les cieux, de tout l'univers, va-t-il répondre à des gens qui agissent ainsi et qui ont un tel état de cœur ? Certainement, s'ils ne changent pas, ils n'auront jamais cette conviction et cette assurance bénie. Ensuite, une deuxième chose que nous voyons à propos de ces gens, c'est qu'ils ne croient pas au témoignage des œuvres du Seigneur. On voit cela au verset 25, ainsi qu'au verset 32 et 33. On reconnaît un arbre à ses fruits, cela tombe sous le sens. Et les fruits portés par le Seigneur avaient été excellents. Que de merveilleuses guérisons! Quelle délivrance de puissances mauvaises! Que de soulagements de divers maux! Que de transformations de vie, des avares devenant généreux, des malhonnêtes devenant probes, des violents devenus doux et bons, et quantité d'autres. Que de prières exaucées! Une influence bienfaisante s'était répandue sur toute la région, sur toute la société, par la grâce du Seigneur et de ses œuvres. Les publicains même et les prostituées, ceux qui étaient considérés comme la lie de la société, étaient métamorphosés par la grâce du Seigneur. Et cependant, les incrédules de notre texte ne voulaient pas tenir compte de cela. Ils prétendaient que ce n'était pas important, que ce n'était pas cela qui comptait. Comment voulez-vous que le Seigneur se révèle à des gens qui ont un cœur aussi malhonnête? Et aujourd'hui, il en est exactement de même. Si vous voulez recevoir cette certitude céleste, cette assurance bénie que Dieu est bien le Christ, avec toutes ses conséquences admirables, comme il faut tenir compte de ses témoignages, de ses guérisons, de ses transformations de vie, des résultats de ce que le Seigneur a accompli pour beaucoup, et que ce soit un puissant encouragement à le chercher et à faire sa volonté. Puis une troisième chose à propos de ces personnes. Au verset 26, nous voyons bien que ces gens n'ont pas voulu être de ces brebis, c'est-à-dire entendre sa voix et lui obéir comme le Seigneur l'exprime au verset 27. Et c'est là une chose que, dès le départ, avant d'avoir examiné quoi que ce soit, ils ne voulaient pas. Pour eux, il n'en était pas question, point. Et cela paraît surprenant quand on y réfléchit, parce que finalement, Jésus n'est pas un tyran. Jésus ne demande pas des choses mauvaises. Il ne demande pas de faire des actes que réprouve la morale. Il n'est pas un maître dur qui ferait de nous des esclaves malheureux, c'est tout le contraire. Il est le meilleur des maîtres. Son joug est doux et son fardeau léger. Sa loi est sainte, juste et bonne. Il est miséricordieux et compatissant. Il donne un bon salaire à ceux qui travaillent pour lui. Il récompense richement ceux qui mettent sa parole en œuvre. Et tous ceux qui se sont engagés à son service sont d'accord pour dire qu'il accomplit fidèlement ses promesses pour ceux qui se sont mis à l'œuvre pour son nom. Alors pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tant de réticence à lui obéir, à se soumettre à la parole, à sa parole? La grande raison, c'est parce qu'on ne veut pas s'humilier. C'est parce qu'on ne veut pas s'abaisser. On veut pouvoir continuer à en faire à sa tête. On pense qu'on n'a pas besoin d'un Dieu qui nous dit ce qu'on doit faire. On se croit assez grand pour faire les choses tout seul. Jésus dit, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma parole est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » En fait, c'est le seul moyen de parvenir à une assurance ferme, à une conviction de cœur, à garder la grâce et la bénédiction du Tout-Puissant dans notre vie dès maintenant et à jamais. Se mettre à faire la volonté du Seigneur. La faire pour pouvoir expérimenter qu'il est véritablement ce qu'il prétend être. Et puis une quatrième chose encore à propos de ces personnes. Ils n'ont pas voulu reconnaître sa divinité et son unité avec le Père. C'est ce qu'on voit bien au verset 29 à 31. Pas même de discussion possible, pas même d'exposer le moindre argument. Immédiatement, ils prennent des pierres pour le lapider. Comment voulez-vous discuter avec des gens comme ça? Comment voulez-vous que quelque chose leur soit révélé concernant l'amour et la bonté de Dieu? C'est impossible parce que ces gens ne veulent rien savoir. Ils sont persuadés qu'ils ont raison, que les autres ont tort. Ils sont aveuglément attachés à leur tradition. Ils ne sont même pas prêts à remettre en question ce qu'ils ont appris. Ils rejettent tout ce qui est différent de leur conception, de leurs habitudes. Ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas apprendre. Ah, il y a plus de gens qu'on ne le croit généralement qui sont ainsi. Il faut du courage pour examiner ses convictions d'un œil neuf. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on ne détient peut-être pas la vérité universelle. En même temps, c'est le bon sens qui nous dit d'être ouvert pour apprendre éventuellement quelque chose de nouveau qui va peut-être nous faire du bien. Disons-le, il faut l'amour de la vérité pour ne pas simplement se satisfaire de ce qui atterrit juste devant nous, pour aller nous-mêmes chercher plus loin et plus haut. Mais quelle bénédiction pour ceux qui acceptent de se laisser enseigner par Dieu et par sa parole. Et une cinquième chose encore que nous voyons à propos de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas reçu le témoignage de l'Écriture sainte. C'est très clair lorsqu'on regarde du verset 34 au verset 36. La loi de Dieu, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, ce n'est pas n'importe quel livre que nous avons entre nos mains. Comme nous devons être remplis de respect et de considération à l'égard du message qui y est contenu. comme nous ne devons pas juger son message, mais bien plutôt nous laisser juger par lui. Le problème de ces gens, là encore, c'est qu'ils avaient manqué de respect des choses de Dieu. Ils avaient bien lu la Bible, mais pour en tirer une religion et une tradition qui les arrangeaient. Et par ce moyen, ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et ainsi en est-il arrivé à ce paradoxe, condamner au nom de la parole de Dieu celui qui est l'expression parfaite de la parole de Dieu, celui qui est la parole faite chair. Lisez la parole de Dieu. Oui, qu'il en soit ainsi assidûment pour chacun de nous. Mais que nous la lisions avec prière, que nous la lisions avec un esprit d'obéissance et de soumission, que nous la lisions pour chercher la volonté de Dieu, que nous la lisions pour mettre cette volonté de Dieu en pratique, que nous la lisions pour être nous-mêmes changés et de plus en plus agréables à Dieu, et non pas vouloir absolument changer les autres, que nous la lisions et la méditions pour mieux aimer et suivre le Seigneur, et c'est ainsi que nous serons bénis par elle et en elle. Enfin, un dernier point à propos de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas non plus reçu le témoignage de Jean-Baptiste dont il était question du verset 40 au verset 42. Jean-Baptiste, c'était le prédicateur qui annonçait la venue de Jésus. C'était l'homme dont la vie avait été irréprochable et il ne pouvait rien trouver à redire à son comportement qui correspondait tout à fait à son message. C'était l'homme qui leur parlait d'après le message des anciens prophètes. Tout ce qu'il disait était appuyé sur la parole de Dieu, et là encore, il n'y avait rien à dire, rien à redire de leur part. C'était l'homme qui avait été le moyen pour que de nombreux pécheurs soient amenés à la repentance. Et là encore, il n'y avait rien à dire quant à la valeur et à l'excellence de ce travail. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu recevoir sa parole parce que leur cœur était hypocrite, orgueilleux, méchant, mal disposé. Gardons-nous de refuser la prédication. Gardons-nous de refuser ce qui a déjà, de toute évidence, produit du fruit pour Dieu dans plusieurs vies. Car c'est souvent là le moyen par lequel le Seigneur révèle sa grâce et son amour et accorde cette bénédiction suprême de l'assurance du salut. Tout ceci nous amène à notre deuxième point maintenant. Ceux qui ont obtenu cette foi bénie, et comment ils l'ont obtenue ? Il est spécialement question d'eux à la fin de notre texte, dans les versets 40 à 42. Et là, que nous est-il dit ? La première chose qui nous est dite à leur sujet, c'est qu'ils sont allés vers Jésus, au verset 41, début du verset 41. Et ils ont donc quitté Jérusalem, qui était à ce moment-là un lieu d'incrédulité et d'opposition au Seigneur, comme on a pu le voir juste auparavant, et ils sont partis. Ils ont parcouru une réelle distance pour aller jusqu'à lui. On estime ce chemin à parcourir entre 9 et 10 heures de marche. Il fallait tout de même faire l'effort. Il fallait tout de même y aller. Et certainement, c'était une bonne chose pour ces gens qu'il en soit ainsi, parce qu'ils n'auraient jamais pu croire, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, s'ils étaient demeurés à Jérusalem. Mais il est dit au verset 42, « Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » Pourquoi dans ce lieu-là ? Parce que Jésus était là, parce que l'assemblée des disciples était là, parce que l'incrédulité y était combattue et la foi y était mise en avant. Et c'est pour cela que nous avons, nous aussi, besoin de nous rendre dans des lieux d'assemblée. De cette salle d'où nous parlons aujourd'hui, nous pourrions dire aussi « Dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui ». Oui, à cause de la réunion des disciples du Seigneur, à cause du combat par la foi, à cause de la lutte contre l'incrédulité et surtout de la présence du Seigneur. Et ceux qui veulent donc une véritable foi bénie auront à cœur de venir et de revenir régulièrement dans ce lieu-là. Une deuxième chose que nous voyons à leur sujet, qui est aussi un enseignement pour nous, c'est que pour cela, ils ont traversé le Jourdain. Donc ça encore, cela nous est indiqué dans ce verset 40. Et pour cela, ils se sont mouillés, dans tous les sens du terme. Il n'y avait pas encore de pont à ce moment-là, et bien peu de barques pour faire cette traversée. Il fallait donc aller à gué la plupart du temps, éventuellement à la nage. Mais le fait de surmonter l'obstacle en valait la peine, puisque le résultat, c'était qu'on se trouvait dans la présence de Jésus. Et combien on peut faire cette merveilleuse expérience de manière semblable ? Ils se sont mouillés pour Jésus. Ils se sont engagés pour lui, par exemple dans les eaux du baptême. Ils ont parlé de son amour à quelqu'un. Ils ont pris une position d'obéissance. Ils ont fait consciemment un pas décisif dans sa direction. Ils ont déjà engagé leur vie dans cette recherche de Jésus. et cela était pour eux le moyen d'être admirablement fortifiés dans la foi et dans l'assurance, et que la joie du Seigneur a pu être leur force. Et puis une troisième chose que nous notons, pour notre bien, c'est qu'ils se sont souvenus du baptême de Jean. C'est dans le verset 40. Ce baptême, c'était un baptême de repentance. C'était le signe qu'on se repentait de ses péchés pour mener une vie nouvelle avec le secours d'en haut. Et il comportait plusieurs étapes, ce baptême. Mais tout d'abord, la prise de conscience du péché, de sa gravité, le regret de la vie passée, le désir de changer de conduite, la compréhension que le secours de Dieu est indispensable pour y arriver, la confession du péché à Dieu, l'abandon du péché par ce baptême, et le désir de renouvellement d'obéissance en sortant de cette eau purificatrice. Enfin, la foi au pardon divin. Oui, la repentance profonde et vraie est aujourd'hui encore totalement indispensable pour un vrai salut et une foi profonde et vivante. Et puis, ces gens encore, une quatrième chose qu'on peut voir, c'est que ces gens ont dit que Jean-Baptiste n'avait pas fait de miracle. On voit cela au verset 41. Ils font donc la différence avec Jésus dont ils reconnaissent les miracles. Ils croient que Jésus fait des miracles, qu'il en a fait et qu'il en fait encore. Et ainsi, parce qu'ils croient, ils verront la gloire de Dieu, ils verront d'autres miracles encore. Et croyez que nous avons affaire à un Seigneur vivant, agissant et tout-puissant. Il a agi dans le passé et avec régularité au cours des siècles. Il a agi encore tout récemment pour toutes sortes de cas et toutes sortes de situations. Pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? Mais croyez et vous verrez sa gloire. Vous le verrez répondre à votre prière et vous bénir. Et une chose encore, une cinquième chose qu'on peut voir, c'est qu'ils ont tenu compte du témoignage de Jean. Ils ont tenu compte de ces prophéties parfaitement réalisées par la parole de Dieu. Et cela a été pour eux un puissant soutien dans la foi. Certainement, un des moyens les plus encourageants de croire à la parole de Dieu, c'est de considérer les prophéties qui y sont contenues. Celles qui se sont réalisées sans faille déjà, celles qui sont en train de s'accomplir, et celles si frappantes qui concernent le proche avenir que nous vivrons bientôt, Dieu voulant. Et voilà un puissant témoignage en faveur de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance du Dieu vivant qui suit sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Béni soit son nom. Amen. Et que voyons-nous aussi? Nous voyons qu'ils étaient, ces gens étaient à la recherche de la vérité. Fin du verset 41, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Ils cherchaient ce qui est vrai. Ils cherchaient une parole de vérité. Ils l'ont discerné déjà en Jean-Baptiste, et maintenant ils trouvent la même chose, plus fortement exprimée encore, en Jésus. La sincérité, la droiture de cœur, voilà ce qui caractérise leur état d'esprit. Heureux ceux qui gardent leur cœur dans l'honnêteté de pensée, ceux qui ne résistent pas aux appels de leur conscience. Car le Seigneur, qui est le Dieu de vérité, pourra par là se révéler à eux, et ils verront s'accomplir sur eux, pour eux, la promesse « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Amen. » Enfin, nous voyons une septième chose, c'est qu'ils se sont attachés à ce lieu et au Seigneur qui y était. Verset 42, donc, « Dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » Quel était ce lieu? Il est bon de le répéter. C'était un lieu de prédication, c'était un lieu de baptême, c'était un lieu de témoignage, un lieu d'enseignement de la parole de Dieu, un lieu de miracle, un lieu d'assurance de la foi. Et c'est ainsi que cette bonne œuvre s'est accomplie en eux. Et c'est ainsi qu'ils ont cru que Jésus est le Christ, et en croyant, ils ont eu la vie en son nom. Qu'il puisse en être parmi nous ainsi aujourd'hui. Suivant ce qui est écrit en Jean 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites et prêchées aujourd'hui, ça c'est moi qui rajoute, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il faut donc aller à lui aujourd'hui. Il faut se mouiller pour lui. Il faut s'attacher à la repentance. Il faut croire au miracle du Seigneur. Il faut s'attacher à la prédication de sa parole. Il faut chercher la vérité avec sincérité et il faut s'attacher au lieu où Dieu bénit. Et certainement ceux qui le feront de tout cœur verront la plénitude de la grâce de Dieu sur leur propre vie. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, de ce que tu es celui qui soutient et qui suit ta parole. Et te remercions, Seigneur, aussi parce que tu accomplis ton œuvre dans la vie, dans l'existence, dans la situation de ceux qui ont justement à cœur d'agir suivant cet exemple qui nous a donné là, Seigneur, c'est-à-dire qui veulent vraiment venir à toi, qui veulent vraiment se mouiller pour toi, qui veulent vraiment passer par une profonde repentance, qui croient à ton action, à tes miracles, qui se confient en toi, qui veulent s'attacher à cette bonne parole, Seigneur, qui veulent continuer à chercher ta vérité avec sincérité, s'y approfondir et qui veulent s'attacher aussi, oui, à la communion des frères et sœurs, des autres disciples du Seigneur, ceux qui ont la foi. Merci pour toute bonne œuvre de salut et de vie, pour toute bonne œuvre de secours d'en haut que tu accomplis suivant ta puissance, ta compassion et ta grâce. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous avons encore quelques annonces, simplement. Je vous rappelle que le culte aura lieu dimanche, Dieu voulant, à 9h45 à l'église, dimanche le 26. Alors, ceux qui sont venus le 19 et qui veulent revenir le 26, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez venir. Par contre, ceux qui ne sont pas venus le 19, donc qui sont, et qui voudraient venir le 26, ben vous êtes prioritaires, mais malgré tout, inscrivez-vous sans tarder sur le site ou par téléphone, puisque cette démarche est nécessaire pour le moment. Voilà, donc si jamais il y a un problème parce qu'il y aurait trop de monde, alors on préviendra ceux qui sont déjà venus, mais on les préviendra sans tarder. Hein. Donc la semaine prochaine, du mardi 28 au jeudi 30, il y aura un programme d'activité spirituelle et un peu de détente aussi, semblable à celui qu'il y a eu du 6 au 8 juillet. Vous pouvez vous renseigner, vous inscrire auprès de Jean-Baptiste et de Timothée. Ceux qui veulent continuer à participer à la distribution de traités sur Shalom, bien, vous pouvez inscrire aussi auprès de moi-même. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie en lui. Amen.